La liturgie de ce 17e dimanche du temps ordinaire nous donne d'entendre un épisode bien connu des évangiles, la multiplication des pains et des poissons. C'était un peu avant la fête de la Pâque, qui est la grande fête des Juifs, nous dit l'évangéliste saint Jean. Cette indication n'est pas sans importance. Elle nous rappelle que si tout l'évangile se rapporte aux trois jours saints, le passage que nous entendons en ce jour doit être lu dans la perspective de la mort et de la résurrection du Christ. C'est l'œuvre de Dieu qui s'accomplit. Le passage évangélique est clairement un passage où les disciples sont mis à l'épreuve. Il dit à Philippe « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve. Et Philippe de répondre « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun ait un petit morceau de pain. » L'énormité de la dépense est claire. De son côté, un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Si l'énormité de la dépense est claire aux yeux des disciples, l'étendue de la faiblesse de leurs moyens leur est tout autant connue. Cette attitude à juger d'une situation selon leurs aptitudes humaines est une attitude qui nous est à nous aussi bien propre. Il suffit d'ailleurs de voir la manière avec laquelle tant de nos contemporains accueillent avec circonspection le récit de ce passage de la vie du Christ. Ce que le Christ va demander à ses disciples, c'est de dépasser le simple horizon de la raison humaine pour entrer dans la profondeur et l'étendue de la dimension de l'Esprit de Dieu. Si à l'homme tant de choses sont impossibles, à Dieu tel n'est pas le cas. La présence de Dieu rend toute chose nouvelle. Alors s'accomplit ce qui était inattendu parce que vu en dehors de Dieu. Le Christ nourrit la foule. Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, les distribua. Il leur donna aussi du poisson autant qu'ils en voulaient. C'est bien l'intervention de Dieu qui renverse la situation. Le fait que le Christ rende grâce nous indique qu'il agit alors de concert avec son Père. L'irruption de Dieu dans l'histoire est un bouleversement de ce que l'homme est capable de vivre et de concevoir. Dieu agit et le monde se transforme en paradis retrouvé. Les foules sont nourries et elles se reposent. L'évangéliste, en effet, rapporte que Jésus les fit asseoir, indiquant « Il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit ». Une telle indication ne peut-elle pas évoquer les herbes fraîches du psalmiste qui nous promet ainsi le repos tant attendu qui récompensera l'homme croyant et fidèle. L'homme est appelé à vivre rassasié de la bonté du Seigneur. Cette découverte de la bonté et de la providence de Dieu requiert de notre part la ferme conviction que Dieu peut agir en ce monde. La fine pointe du récit reste sans doute sur ce défi de l'intervention de Dieu à nos esprits limités ou incrédules. Dieu peut-il intervenir? Voilà la grande question de tant de nos contemporains qui doutent de la possible intervention de Dieu dans l'histoire. D'ailleurs, pour rendre le récit évangélique plus crédible, nombreux sont ceux qui ne donnent aucune consistance historique aux faits qui sont ici rapportés. Mais arriver à une telle négation, n'est-ce pas s'ouvrir immanquablement à la négation même du christianisme? En effet, l'incarnation elle-même n'est-elle pas le signe éclatant de l'intervention non seulement possible, mais accomplie de Dieu dans l'histoire? Dans le cas où Dieu n'interviendrait pas, c'est la fameuse incise historique du credo, crucifié sous Ponce Pilate, qu'il faudrait alors supprimer pour rendre audible la foi à nos intelligences. Vous l'aurez compris, frères et sœurs, en ce dimanche, il nous faut résolument reposer un acte de foi. Celui de l'intervention toujours possible de Dieu dans nos vies, de Dieu dans l'histoire humaine.